Donc en fait, pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, donc depuis novembre 2015, il y a deux généalogies qu'on pourrait retracer. Il y a la petite histoire ou une petite généalogie qui est celle de l'état d'urgence, je ne vais pas le faire, mais il me semble que pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien, il faut aussi se pencher sur notre passé répressif et sur le passé de l'exception en France. Et ce qu'on peut dire d'abord, c'est que l'exception, elle a toujours été mobilisée pour lutter contre des ennemis publics, contre des ennemis intérieurs, pour faire face à des actes terroristes ou à des violences radicales. Et que certains pays sont les champions de l'exception, c'est-à-dire une forte tradition d'usage de l'exception, et que la France est pour moi l'un des pays qui a l'une des plus fortes traditions d'usage de l'exception, en tout cas dans le cadre des démocraties occidentales. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que il me semble qu'on pourrait remonter au moins jusqu'à le Moyen-Âge hein, et la monarchie pour trouver des traces de justice d'exception avec la fameuse justice retenue du roi qui était en fait une forme d'appropriation du pouvoir judiciaire par le monarque tout simplement. Et si on ne veut pas remonter si loin, on pourrait remonter à la Révolution française et notamment au moment de la Terreur qui a été un moment d'usage de l'exception avec, par exemple, la mise en place d'un tribunal d'exception, le tribunal révolutionnaire qui a participé à la condamnation à mort de plus de 3000 personnes en quelques mois. Et donc, il me semble qu'il est très important de travailler sur ces moments de crise politique, sur ces moments de très forte conflictualité politique et sociale qui sont pour moi des matrices de l'exception, c'est-à-dire des moments où on va multiplier les dispositifs d'exception et en fait qui vont laisser des traces dans notre appareil répressif. C'est-à-dire que l'une des hypothèses que je développe, c'est que quand il y a des moments très répressifs, très conflictuels, une fois que ces moments très répressifs et très conflictuels sont finis, se terminent, la parenthèse répressive, elle ne se ferme pas. La parenthèse de la répression, elle ne se ferme pas et qu'il reste toujours des traces d'exception dans notre appareil judiciaire, dans notre appareil policier et dans notre appareil militaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai plus particulièrement travaillé. Alors, j'avais déjà travaillé sur la guerre d'Algérie et la guerre froide en termes de répression des militants. Mais ensuite, j'ai travaillé sur la période post-guerre d'Algérie jusqu'à nos jours. En fait, je me suis beaucoup servi des travaux de Sylvie, évidemment, et j'ai poursuivi en fait la chronologie. Et ce qui m'a intéressé particulièrement, c'était de travailler sur les tribunaux d'exception. Pourquoi ? Parce que c'est, à mon avis, l'illustration type, hein, exemplaire de l'exception en France et de la répression par l'exception. Et que, en France, dans toutes les périodes de crise, on a utilisé les tribunaux d'exception contre des ennemis publics ou des ennemis intérieurs. La Révolution française, je vous l'ai dit. Vichy, malheureusement et évidemment. La guerre d'Algérie, je ne sais pas si tu l'as dit, Sylvie, tout à l'heure, mais tu expliques très bien que l'état d'urgence, dans tes travaux, que l'état d'urgence a donné des moyens aux tribunaux permanents des forces armées, justement, qui ont étendu la répression des tribunaux permanents des forces armées. Donc, la Révolution française, Vichy, la guerre d'Algérie, et la suite. Avec cette question que je laisse en suspens, j'y reviendrai tout à l'heure, est-ce qu'il existe aujourd'hui en France une justice d'exception et une juridiction d'exception pour juger les ennemis intérieurs ? Il peut y avoir débat, mais je vous donnerai mon point de vue. Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'en France, il n'y a qu'une République, ou qu'un seul moment où on n'a pas connu de tribunaux d'exception, c'est la Troisième République. Mais il ne faut jamais oublier que la Troisième République est la République des lois scélérates, qui sont les lois pour réprimer les menées, dites les menées anarchistes, et donc en fait pour réprimer tout propos ou tout activisme de gauche, hein, ou d'extrême gauche. Et qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi toute une forme de répression coloniale ou de justice coloniale qui est attentatoire évidemment aux libertés publiques, aux garanties fondamentales et qui est totalement discriminatoire. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que nous apprend l'histoire de la justice d'exception et des tribunaux d'exception en France ? Et il me semble que justement si on travaille sur ces tribunaux d'exception, ces tribunaux militaires ou politico-militaires, alors la différence entre les deux c'est qu'il n'y a que des militaires, et il y en a un autre, c'est moitié de militaire, moitié juge, hein, choisi par le pouvoir, en fait. Donc, si on regarde cette histoire-là, en fait, ça nous renseigne sur la normalisation de l'exception, qui est en fait le titre de mon intervention, la normalisation de l'exception sous la Ve République. Et si on regarde cette histoire-là, on comprend les raisons de cette normalisation, les facteurs explicatifs et les effets de la normalisation, notamment sur la population. Si je prends cette histoire des tribunaux d'exception, je vois qu'il y a toujours des arguments justificateurs de l'exception. C'est-à-dire qu'on va toujours justifier l'exception de la même manière, sous la Ve République, mais comme l'a dit Sylvie bien avant, dans le cadre du régime républicain. Premièrement, il y a toujours l'identification d'un péril ou d'une menace pour l'ordre public. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a toujours le ciblage d'un ennemi intérieur extrêmement précis. Cet ennemi intérieur, pour que l'exception soit acceptée, tolérée, admise, elle doit être consensuelle, cette cible. Relativement consensuelle. En tout cas, la répression de cette cible par l'exception doit être consensuelle. C'est intéressant ce qu'a dit Sylvie tout à l'heure, parce qu'effectivement, le fait, par exemple, qu'à la fin de la guerre d'Algérie, la cible principale de la répression soit l'extrême droite pro-Algérie française, finalement, fait accepter tout un tas de mesures qui vont rester dans le droit et qui vont s'appliquer, je vais y revenir, à la gauche. Et c'est ce qu'on voit très bien aujourd'hui, avec des mesures comme l'état d'urgence qui sont justifiées, avec un ennemi intérieur précis dont la répression fait a priori consensus, le djihadisme dit islamiste, et ce consensus-là fait que des dispositifs sont votés et ensuite réappropriés et mobilisés contre d'autres cibles. Donc l'argument, il y a toujours cet ennemi intérieur. Avec quelque chose aussi qui est très important, il me semble, c'est que cet ennemi intérieur, il est décrit comme agissant de façon nouvelle. C'est-à-dire que les gouvernants, les experts, les agents répressifs vont toujours dire que il y a une nouveauté dans les violences auxquelles il faut faire face. Nouveauté du terrorisme, nouveauté des violences radicales, nouveauté des troubles à l'ordre public. Par exemple, le terrorisme de l'OAS à la fin de la guerre d'Algérie est décrit comme un terrorisme tout à fait nouveau. On va ensuite décrire le terrorisme, je ne sais pas, indépendantiste, comme quelque chose de tout à fait nouveau. On va décrire le terrorisme dit islamiste comme quelque chose de tout à fait nouveau. Quel est l'intérêt ? C'est que si les menaces, si les modalités de la menace sont nouvelles, alors il faut des nouvelles mesures pour y faire face. Et donc la nouveauté, l'argument de la nouveauté, sert en réalité à justifier de nouveaux dispositifs d'exception et donc à justifier la nécessité de légiférer ou de mettre en place des dispositifs d'exception. La nouveauté, premièrement. Deuxièmement, la permanence. C'est-à-dire que cette cible, cette fameuse menace nouvelle, elle est aussi décrite comme permanente. On va dire, par exemple, que la menace va durer, que ce terrorisme-là ou que cette violence radicale-là ne s'arrêtera pas, qu'elle n'est pas provisoire. Et donc, à menace permanente, dispositif permanent. Et quand on insiste sur le fait que la menace, le terrorisme, cette violence radicale ne va pas s'arrêter, c'est là encore pour justifier des dispositifs permanents. Voilà sur la menace. Deuxièmement, évidemment, il y a toujours un argument, il y a l'urgence à agir. Il faut agir très très vite. Et là, on voit très bien qu'il y a une forme de pression sur les acteurs pour adopter des mesures d'exception. Et dans l'histoire, j'ai des cas très, très précis où les parlementaires hésitent à commencer à dire ces mesures d'exception, peut-être qu'elles sont trop radicales, on va leur dire si vous n'êtes pas content, on va faire voter en 49, avec l'article 45 de la Constitution, c'est-à-dire en débat accéléré. Et un tribunal dont je vais vous parler d'exception a été voté en 2 jours de débat. C'est-à-dire qu'il n'y a eu quasiment aucun débat à l'Assemblée nationale avec une procédure accélérée. Donc il y a une urgence à agir et si les députés ne sont pas contents, on va les faire voter et discuter dans l'urgence. Troisièmement, argument extrêmement important par rapport à ça, c'est l'incapacité du droit commun à faire face aux violences radicales. C'est-à-dire qu'on va toujours insister sur le fait que notre appareil répressif, judiciaire, policier, militaire, n'est pas adapté aux violences qu'il est censé, cet appareil répressif, combattre. Et donc on va dire que le droit commun ne suffit pas. Ce qu'on a aujourd'hui dans notre appareil, dans notre législation, dans notre droit ne suffit pas. Et donc il faut légiférer, mettre en place des dispositifs dérogatoires au droit commun, etc. Et enfin, évidemment, il y a un dernier argument. Il y a toujours une finalité supérieure. Avant, je dirais, avant au moins les années 90, c'était la sauvegarde de l'État, la protection de la chose publique. Il fallait protéger l'État et ses agents. Aujourd'hui, c'est la protection des populations civiles et des citoyens, ou encore la protection de valeurs, de principes. Par exemple, Manuel Valls, en décembre 2015, a justifié l'état d'urgence par la protection de nos libertés. Je ne fais aucun commentaire. si je continue mon histoire des tribunaux d'exception, je vois que ces tribunaux d'exception, dans notre histoire, depuis la Révolution française, ils ont plusieurs caractéristiques communes. Il y en a au moins quatre. Je vais très vite. La première, c'est que tous ces tribunaux d'exception sont créés dans des contextes de guerre ou de post-conflit pour juger soit des ennemis intérieurs agissants qui troublent l'ordre public, soit des vaincus. L'exemple type de vaincu, ce sont les collaborateurs à la libération qui ont été pris dans des tribunaux d'exception de l'épuration. Autre exemple de vaincu, les membres de l'OAS qui ont perdu leur cause, l'Algérie française, et qui ont été pris dans des juridictions d'exception aussi. Dans ces cas-là, il y a une forme d'exceptionnalisation de la justice qui, en fait, répond à l'exigence de légitime défense de l'État. Il y a une forme de légitime défense de l'État qui va justifier, dans des contextes de guerre ou des contextes de post-conflit, la mise en place de juridictions d'exception ou de mesures d'exception. Je vous cite quand même la liste des juridictions d'exception françaises avant la fin de la guerre d'Algérie parce qu'elle est symptomatique. Je vais très vite. Section spéciale. Cour martiale de Ghana, Cour suprême de Riom, Tribunal d'État, sous Vichy. À la libération, nous avons eu les cours martiales, les cours de justice, les chambres civiques, la haute cour de justice et pendant la guerre d'Algérie, le haut tribunal militaire, le tribunal militaire spécial, la cour militaire de justice, les cours martiales d'Alger et d'Oran, le tribunal de l'ordre public et on pourrait rajouter les tribunaux permanents des forces armées. Je suis allée très vite, mais c'était pour vous montrer la liste de toutes ces juridictions d'exception qui ont vraiment émaillé notre histoire française, notre histoire de la répression, notre histoire de la justice, comme si on ne pouvait pas réprimer autrement des ennemis publics ou des ennemis intérieurs que par la mise en place de justice d'exception. Deuxième caractéristique, ces juridictions d'exception, elles sont là pour juger plus sévèrement et plus rapidement des ennemis publics. Alors là, je vais passer extrêmement vite, mais en général, la sévérité d'une juridiction d'exception, elle est permise par la présence de militaires dans les prétoires. Et on sait que l'armée, évidemment, est beaucoup plus répressive, même si ça se discute, je crois, que la plupart des juges professionnels. Et ce qui est intéressant dans le cas des tribunaux d'exception, c'est que les tribunaux d'exception, évidemment, dans certains cas, vont de la possibilité de donner des amendes à payer à la condamnation à mort. Parfois, avec sans appel, sans possibilité de faire appel. Ce qui fait qu'il y a un large système de peine qui fait que vous pouvez être condamné à payer des amendes ou vous pouvez être condamné à mort. Mais dans le cas d'autres juridictions d'exception, il y a d'autres possibilités de peine. Par exemple, la destitution de la Légion d'honneur, les interdictions professionnelles. Par exemple, à la Libération, quand on a épuré, on a mis en place des interdictions professionnelles. Donc il y a énormément de peines possibles dans le cadre d'une juridiction d'exception. Troisième caractéristique des juridictions d'exception, je vais très vite, une juridiction d'exception n'est pas qu'une justice d'exception. C'est-à-dire que si vous êtes inculpé par une juridiction d'exception, vous allez avoir contre vous aussi des dispositifs policiers d'exception ou des dispositifs pénitentiaires d'exception. Si vous êtes inculpé par une juridiction d'exception, mais par exemple, dans le cas de la Cour de sûreté de l'État, qui est une justice d'exception post-guerre d'Algérie, si vous êtes inculpé par ce tribunal-là, vous pouvez être gardé à vue pendant 15 jours. Ou vous pouvez être détenu de manière illimitée. Par exemple, en droit commun, le juge d'instruction est obligé de motiver la prolongation de la détention provisoire. Dans certaines juridictions d'exception, ce n'est pas le cas. Et donc, vous pouvez rester 30 mois, 40 mois sans information sur votre procès, sans aucune information sur votre affaire. C'est par exemple le cas de Jean-Marc Rouillan, qui est resté plus de 40 mois en détention provisoire sans aucune information sur son procès et qui a été obligé de faire une grève de la faim pour pouvoir savoir ce qu'il en était de son affaire. Jean-Marc Rouillan, c'était en 1979-80. Il a été inculpé plusieurs fois. Lui, il a une trajectoire très intéressante, c'est horrible de le dire comme ça, mais pour le chercheur, parce que très tôt, il a été inculpé par les tribunaux d'exception, tribunaux militaires, parce qu'il refusait de faire son service. Et ensuite, il a été inculpé plusieurs fois, deux, trois fois, par la Cour de sûreté de l'État, pour des cas d'atteinte à la sûreté de l'État, possession d'armes, etc. Et parallèlement à ces condamnations, à ces inculpations devant les tribunaux d'exception, il était aussi inculpé devant la justice pénale ordinaire et notamment par la cour d'assises. Donc il cumule toutes les formes de répression, Jean-Marc Rouillan, possibles et inimaginables. Voilà. Donc c'est un cas extrêmement intéressant. Et par ailleurs, la répression d'action directe qui a été, à mon avis, trop peu étudiée, et extrêmement intéressante sur les, sur la, la répression par l'exception, mais pas seulement. Voilà, et dernière caractéristique, je vais très vite, des juridictions d'exception, c'est que l'autorité judiciaire est totalement soumise au pouvoir politique. Hein. C'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est le politique, hein, le chef de l'État, le président de la République, hein, le ministre de la Justice, hein, parfois même le ministre de l'Intérieur, qui décide, hein, qui est inculpé, comment, pourquoi et avec quelle sentence. Et j'ai même un cas très intéressant qui n'a pas abouti, mais en mai 68, la DST essaie de prendre les commandes de la répression des manifestants en essayant de déférer les militants de mai 68 devant une juridiction d'exception. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les archives que j'ai trouvées de la DST met carrément les articles par lesquels on pourrait inculper les militants devant un tribunal d'exception, ce qui est quand même dingue. Ce qui fait qu'en fait, les services de renseignement, plus le ministre de l'Intérieur, se fait juge, hein, et donc instruit quasiment le procès des manifestants de mai 68. Je ferme la parenthèse. Donc, en gros, voilà ce que je peux vous dire sur l'histoire, en gros, de la justice d'exception. Ce qui m'intéresse, c'est la période post-guerre d'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la fin de la guerre d'Algérie, il y a une modification de l'exception. L'exception change, elle se transforme. Et elle se transforme dans deux sens. Première transformation, l'exception n'est plus liée à la souveraineté de l'État, où elle n'est plus une exception souveraine ou une exception absolutiste, on pourrait dire, si on prend les termes ou l'analyse de Giorgio Agamben. C'est-à-dire que ce n'est plus une exception qui est décidée par le chef de l'État, par la tête de l'exécutif. En tout cas, elle n'est plus mise en œuvre par le sommet de la hiérarchie étatique. Ça, c'est la première chose. Mais l'exception est mise en œuvre par le Parlement, c'est-à-dire par la représentation nationale. Autrement dit, l'exception se démocratise, même si le terme peut paraître gênant comme ça. Ça, c'est le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, c'est que l'exception n'est plus exceptionnelle. C'est-à-dire qu'à partir de la fin de la guerre d'Algérie, l'exception cesse d'être provisoire, limitée dans le temps et encadrée temporellement. Et là, je vais prendre l'institution sur laquelle j'ai plus particulièrement travaillé et qui incarne ces deux mouvements-là et qui incarne la normalisation de l'exception et qui est la Cour de sûreté de l'État. J'ai pas évidemment le temps de vous la décrire, mais qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est que la Cour de sûreté de l'État est une juridiction d'exception qui a été voulue par le général de Gaulle à la fin de la guerre d'Algérie pour juger les membres de l'OAS. Mais que cette Cour de sûreté de l'État, elle a une caractéristique inédite, c'est qu'au lieu de durer quelques semaines ou quelques mois, comme les précédentes juridictions d'exception dont je vous ai parlé, elle a duré 18 ans. C'est-à-dire que c'est un inédit dans notre histoire, hein, une juridiction d'exception qui n'est pas là simplement pour un ennemi intérieur, mais qui va durer 18 ans, qui va traverser 3 présidences et 13 gouvernements. Ça dit quelque chose de la normalisation et de la pérennisation de l'exception. C'est la première fois qu'on a une juridiction d'exception qui dure. Je vous le dis pour que vous ayez en tête, hein, quelques, 2 chiffres. La Cour de sûreté de l'État en 18 ans a inculpé 5000 personnes de divers crimes. Hein. Ça va de l'assassinat et de l'homicide dans le cas des membres de l'OS qui ont assassiné des gens ou qui sont soupçonnés de l'avoir fait, à des cas de vol ou de recel. Je prends l'exemple d'une maoïste de la gauche prolétarienne qui avait volé un poulet en signe de protestation dans un prise unique. Voilà. Donc on va de l'assassinat au vol ou au recel, mais vol ou recel considéré comme politique, ce qui est très important. Donc 5000 personnes jugées en 18 ans, 36 condamnations à mort qui n'ont jamais été mises en œuvre. Moitié des condamnations à mort, ce sont les membres de l'OAS. Moitié des condamnations à mort, ce sont des espions, en particulier des espions soviétiques ou venus d'Allemagne, mais dont les peines n'ont jamais été appliquées. Je suppose qu'ils ont soit été retournés, c'est-à-dire qu'ils ont été, ils sont devenus des contre-espions, je ne sais pas si on dit ça. Comment on dit ça ? Oui, oui, oui. Des contre-espions, soit on les a renvoyés malheureusement dans leur pays avec certainement des conséquences affreuses. Quoi qu'il en soit, donc 36 condamnations à mort. Et ce qui est intéressant avec la Cour de sûreté de l'État, c'est que donc elle est créée en 1963. Pendant l'état d'urgence, par une procédure accélérée, je le dis parce que ça dit des choses aussi, contre l'OAS. 63, l'OAS. 64, premier, le général de Gaulle commence à amnistier, enfin à gracier des personnes, ce qui fait qu'en gros, en 67, il n'y a plus rien à juger. Donc la Cour de sûreté de l'État doit mourir. Hein, et on voit dans les archives, hein, les juges qui sont très inquiets. Sauf que arrive mai 68. C'est une véritable aubaine. C'est-à-dire qu'en 68, on va commencer à s'intéresser au gauchisme. Et là, on a l'exemple type d'une juridiction créée pour juger l'extrême droite, qui 3 ans plus tard se focalise sur l'extrême gauche. Et qui va continuer à juger l'extrême gauche jusqu'en 1981. Donc, pour vous faire la chronologie, 63 créations OAS, 68 on passe à la répression du gauchisme, manifestant de mai 68, et puis dans les années 70, les Mao, la LCR, des syndicalistes qui veulent imposer et créer un syndicat dans l'armée, et puis ensuite les indépendantistes, corses, basques, bretons, et puis les membres d'Action Directe. Donc voilà un peu les cibles, pour que vous ayez une idée des cibles, parce que c'est très important. La question c'est, pourquoi ça dure? Pourquoi ça dure 18 ans alors que ça aurait dû durer un an, le temps de faire tous les procès de l'OAS, c'est fini. Pour une raison extrêmement simple, c'est que le général de Gaulle, contrairement à ce qu'il a fait dans le passé, n'a pas créé lui-même une juridiction d'exception. Il l'a fait voter par la représentation nationale. Et donc, la Cour de sûreté de l'État est l'une des premières juridictions d'exception, et la seule, à être créée, instaurée par la représentation nationale, par le Parlement et le Sénat, en 2 jours de débat. Ça a 3 avantages. Premièrement, dans le cadre de la Ve République, vous savez, on a ce que les constitutionnalistes appellent le fait majoritaire. Le fait majoritaire, c'est la capacité du président de la République à avoir toujours une majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui fait que n'importe quelle loi, la plus répressive possible, va toujours être votée. Et il n'y a plus de suspense avec le fait majoritaire, n'importe quelle loi va être votée. Deuxièmement, instaurer l'exception par la représentation nationale, ça lui donne une légitimité démocratique. Ce n'est plus le chef de l'État, le président de la République, qui, de son seul chef, de sa dictature, etc., va mettre en place l'exception. C'est la représentation nationale, les représentants de la nation, donc la nation. Légitimité démocratique. Et enfin, effectivement, si l'exception est instaurée par la représentation nationale, l'exception est intégrée dans le droit, dans la loi, et donc dure. Et les processus sont irréversibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'une loi est votée, ben pour supprimer ces dispositifs qui ont été mis en place par la loi, il faudrait être que les opposants soient majoritaires à l'Assemblée nationale et qu'ils décident de voter une nouvelle loi qui soit acceptée pour supprimer ces dispositifs. Je vous donne un exemple qui est la Cour de sûreté de l'État. La gauche socialiste et communiste s'y est fortement opposée, était totalement horrifiée qu'un tribunal d'exception pareil soit instauré dans notre appareil répressif. Ils ont mis 18 ans à arriver au pouvoir jusqu'en 81. C'est pour ça que la première chose qu'ils ont fait en 80, c'est supprimer la Cour de sûreté de l'État et les tribunaux militaires. Mais ils ont mis 18 ans. 18 ans d'efforts, ils ont essayé de faire voter des lois, ça n'a jamais marché. Une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils l'ont supprimé. Autrement dit, tout ça pour vous dire que il y a une forme d'irréversibilité aussi de l'exception, une fois qu'elle se pérennise et qu'elle est instaurée par la représentation nationale. Il y a d'autres facteurs qui font que l'exception, elle se pérennise et elle se normalise. J'en vois au moins 4. Le premier, c'est qu'on est en temps de paix. C'est-à-dire qu'en temps de paix, on ne fait pas ce qu'on veut, et en tout cas, les élites, les hommes politiques ou les agents du champ du pouvoir, pour parler comme Pierre Bourdieu, ne peuvent pas faire vraiment ce qu'ils veulent. Je vous donne un exemple. À la fin de la guerre d'Algérie, le général de Gaulle veut réprimer l'OAS et veut de multiples condamnations à mort. Pour cela, là on est en 62, il va créer un tribunal militaire, mais il ne veut pas que, quand quelqu'un est condamné à mort, il puisse faire appel. Donc on ne peut pas se pourvoir en cassation, on ne peut pas faire appel d'une condamnation à mort. On est en 62, on est en mai 62, je crois, quand il le crée. Un condamné à mort fait un recours devant le Conseil d'État. Et que va dire le Conseil d'État en octobre 62? C'est l'arrêt Canal. Il va dire « cette juridiction d'exception est trop attentatoire au droit ». Et donc, le Conseil d'État demande au général de Gaulle, non, invalidant l'existence de cette juridiction d'exception. Ce qui veut dire quoi? Que c'est la première fois dans l'histoire que le Conseil d'État supprime un dispositif répressif d'exception mis en place contre un ennemi intérieur. Pourquoi? Parce que ça ne se justifie plus par les circonstances. Le Conseil d'État valide toujours les mesures exceptionnelles, la plupart du temps, au nom des circonstances exceptionnelles. À la fin de la guerre d'Algérie, le Conseil d'État estime qu'on n'est plus dans un contexte qui justifie de telles mesures attentatoires aux droits. Et donc, à partir de la fin de la guerre d'Algérie, nous sommes officiellement en temps de paix, et en temps de paix, on ne peut pas mettre en place des dispositifs d'exception réservés au temps de guerre, même s'ils essaient de bricoler avec les institutions malgré tout. Et dans le cas, par exemple, d'un tribunal d'exception, aujourd'hui, vous voulez... Enfin, Emmanuel Macron voudrait créer un tribunal d'exception, par exemple, hein. Il faudrait qu'il passe par le Parlement, puisque dans la Constitution française, seul le Parlement, par l'article 34, est autorisé à créer un nouvel organe de juridiction, c'est-à-dire un nouveau tribunal. Je le dis en riant et pas en riant, parce que l'idée de créer un tribunal d'exception pour juger les djihadistes aujourd'hui n'est pas du tout quelque chose... C'est quelque chose qu'on entend, hein. Je vous parle de la Cour de sûreté de l'État. L'une des propositions phares de Nicolas Sarkozy en 2016, lors de la campagne présidentielle en matière de lutte antiterroriste, était de recréer la Cour de sûreté de l'État. François Fillon, on le sait, comme Marine Le Pen, etc., sont favorables à la réinstauration de tribunaux militaires. Donc, je le dis parce que... voilà, mais en temps de, on est officiellement en temps de paix et on ne peut pas créer un tribunal d'exception sans la représentation nationale. Deuxièmement, si l'exception dure... c'est qu'il y a toujours des gens qui ont intérêt à ce qu'elle dure. J'aime bien cette expression, je la dis souvent, Karl Marx disait « il y a les bénéficiaires secondaires du crime ». Et donc, quand un dispositif d'exception dure, il faut toujours se demander à qui ça profite. Et dans le cas, par exemple, de la Cour de sûreté de l'État, ça profite à plein de gens, et notamment à des juges, qui obtiennent beaucoup d'argent, des avancées de carrière, etc. Donc, il y a toujours des individus qui ont intérêt à ce que ça dure. Troisièmement, si un dispositif d'exception dure, c'est qu'il peut, il y a toujours des menaces à l'ordre public. Vous pouvez toujours trouver des menaces et des troubles à l'ordre public. La vie politique et malheureusement, la vie, je ne sais pas comment dire ça, sociale, est toujours faite de violences et de des attentats, par exemple, en France, on en a toujours connu. Je ne sais pas pour relativiser la potentialité meurtrière inédite du terrorisme islamiste. Mais des attentats terroristes, on a toujours connu depuis le 19e siècle. Donc il y a une forme de violence, des cycles de violence inhérents à la vie sociale ou inhérents à la vie politique, qui font qu'en réalité, si vous voulez justifier un dispositif d'exception par les violences qui sont commises ou par les troubles à l'ordre public, vous trouverez toujours quelque chose pour justifier la pérennisation des dispositifs d'exception. Quatrièmement, dans le cas français, et là je pense plus particulièrement aux dispositifs d'exception récents et aux législations antiterroristes, ce qui pérennise l'exception, c'est le ralliement de la gauche gouvernementale à l'idéologie sécuritaire. Ce qui, à mon avis, pendant très longtemps, a quand même freiné la répression par l'exception, c'est le fait que la gauche communiste et socialiste, en dépit de ce que vous a dit Sylvie tout à l'heure sur 58, s'est opposée à l'exception. La gauche était tout à fait hostile à l'utilisation de l'exception dans le cas de la répression. C'est pour ça que quand Robert Badinter arrive au pouvoir avec François Mitterrand, il supprime immédiatement les tribunaux d'exception, il supprime la Cour de sûreté de l'État, et ils essaient aussi d'abroger, même si c'est plus compliqué, la loi sécurité et liberté. Que dit Robert Badinter ? Il dit l'exception, il ne faut jamais avoir d'exception dans notre appareil répressif au nom de deux principes qui sont très importants. Premier principe, le droit commun doit toujours primer sur l'exception. Il faut toujours privilégier le droit commun, toujours, qui est suffisant, capable de réprimer les violences radicales. Deuxième principe, l'égalité de toutes et de tous devant la loi et la justice. Robert Badinter disait, un terroriste doit être traité comme un bandit. Je n'ai pas le temps de développer, ça a des conséquences en termes de dépolitisation. C'est-à-dire que si le terroriste est traité comme le bandit, ce n'est plus un ennemi politique, c'est un bandit. Qui met en œuvre des attentats. Donc, bon, j'ai pas le temps de développer, mais en tout cas, ça a des incidences dans notre histoire extrêmement fortes sur la répression. Et ce que je voulais vous dire, c'est que donc la gauche y a toujours été opposée relativement à ces mesures d'exception, sauf que à partir des années 90, la gauche se ralliant à l'idéologie sécuritaire, c'est-à-dire commençant à considérer qu'elle ne peut plus laisser le sujet de la sécurité à la droite et à l'extrême droite, commence à elle aussi penser la répression, la sécurité, et donc finalement commence à penser l'exception. Et dans le cas de l'antiterrorisme aujourd'hui, on voit que la gauche gouvernementale et socialiste s'est ralliée à l'usage de l'exception et qu'aujourd'hui des projets de loi peuvent être portés par la droite ou par la gauche de manière indifférenciée quasiment, hein, à quelque chose près. Ce qui fait qu'en fait tout ça pour dire qu'il y a un consensus politique autour des usages de l'exception aujourd'hui. Et que c'est ce consensus politique-là qui permet la pérennisation de l'exception. Je finis sur la dernière justification, le dernier facteur explicatif. Si l'exception dure, c'est aussi que la population est favorable à l'exception. Il ne faut jamais négliger ça. La population est favorable à l'exception aujourd'hui en matière antiterroriste. Pourquoi ? Alors on peut dire la population a peur, c'est vrai. La population est répressive, c'est vrai aussi. Je rappelle toujours cette phrase de Michel Foucault que j'aime beaucoup, qui est très révélatrice je crois. Michel Foucault est interrogé en 1981 sur les tribunaux et sur la cour d'assises. Et sur la sévérité des jurés d'assises, qui sont effectivement en France à partir de la fin des années 70 extrêmement sévères. Et Michel Foucault dit, si on faisait des jurys tout à fait populaires, c'est-à-dire qu'avec des citoyennes et des citoyens ordinaires, on appliquerait la peine de mort même à des voleurs de canards. Donc, c'est une phrase un peu rigolote, mais tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que la population, il y a des formes de tendances répressives. Mais il faut dire aussi que si la population est favorable à l'exception, c'est que l'exception est toujours discriminatoire. L'exception, elle sépare la population en deux. Ceux qui ont le droit aux principes, aux libertés publiques, aux garanties fondamentales et ceux qui n'ont pas droit. Ceux qui vont être mis en situation d'infériorité juridique. Et dans le cas de l'antiterrorisme, ceux qui sont mis en état d'infériorité juridique, puisqu'il y a un profilage communautaire, même si je n'aime pas ce terme, ce sont les musulmanes et les musulmans. Et donc, il faut le dire, si la population est favorable à ces mesures, c'est qu'elle pense, en tout cas la population blanche, je ne sais pas comment dire ça, pense qu'elle ne sera jamais victime de ces mesures antiterroristes et que finalement, si ça s'applique à des musulmanes et des musulmans, c'est finalement pas très grave. Donc, l'une des premières dérives, c'est la normalisation de l'exception. La deuxième dérive, et j'en finirai par là parce qu'il ne faut pas être trop longue et je vais laisser la parole à mon camarade Pignel, c'est évidemment la deuxième dérive, c'est l'extension des cibles. C'est une dérive qui est liée à la première. La première, c'est la normalisation. La deuxième, c'est l'extension des cibles. Plus l'exception dure, plus elle va avoir tendance à toucher de plus en plus de gens, au profil, aux modalités d'action, aux revendications très différentes. La Cour de sûreté de l'État, créée pour juger l'extrême droite, 3 ans après, c'est l'extrême gauche. Et on a des tas d'exemples dans l'histoire. L'état d'urgence a fait fort, puisque de novembre 2015, contre les djihadistes, et la COP21, c'était décembre, c'est ça ? Donc un mois plus tard, contre des militants écologistes. Ah ça, la rapidité de l'extension des cibles est inédite, je crois. Mais on voit bien que, effectivement, l'exception, elle n'est jamais faite que pour cet ennemi intérieur précis qui est ciblé au départ. Cet ennemi intérieur, sa figure, elle devient de plus en plus floue, élastique. Et plus l'exception dure, plus elle va s'appliquer à d'autres individus. Et ça, c'est permis par deux choses, notamment aujourd'hui, c'est que le terrorisme n'est pas défini. On va dire, par exemple, que la dernière loi de l'état d'urgence, elle est faite vraiment, elle est ciblée, elle est ultra ciblée, on vise vraiment que des individus particuliers. Si on regarde le texte de loi, elle cible qui ? Les terroristes. Et moi, je ne sais pas ce que c'est un terroriste. Très, très, très concrètement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le terrorisme n'est pas défini aujourd'hui en France. Et si on veut être vraiment dans la provocation, je ne le ferai pas vraiment, mais je vais le faire quand même. Les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale étaient considérés comme terroristes. C'est la variation des termes, l'élasticité, l'évolution. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'une mesure prise officiellement contre le terrorisme va s'appliquer à tous les individus qui, un jour ou l'autre, seront considérés comme des terroristes. Question, quels sont les individus qui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, seront considérés comme des terroristes ? Et je finirai mon intervention par là, je vous remercie.